Et en ce lundi à début de semaine, le soleil revient timidement dans l'Occitanie. Dans 3 minutes, je vous dis tout sur la météo. Dans 5 minutes, l'interview du matin avec Isabelle Honnel. Elle sera avec le professeur Bruno Vélas, responsable du Gérontopole, oui, qui développe en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Santé une application que toute personne de plus de 60 ans est invitée à télécharger, à ne pas louper. Église Actualité sera bien là aussi avec Emmanuel Pella qui sera en ligne avec nous, c'est dans 20 minutes. Et puis en fin d'heure, votre chronique santé avec Gaëtan Casanova qui a attrapé la Covid. Oui, il vous dit tout. Juste avant toutes ces belles émissions, les titres avec Luc Vidal-Giraud.
Les élections sénatoriales qui s'étaient tenues ce week-end n'ont pas apporté de modifications substantielles au contour de la Chambre haute du Parlement. En Occitanie, en Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Gers, le Tarn et le Tarn-et-Garonne étaient concernés. C'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur de nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19. Ces restrictions peuvent être différentes d'un département à l'autre en fonction de la situation sanitaire. À ce jour, à l'exception du Lot, tous les départements d'Occitanie sont classés en zone alerte. Toulouse, Montpellier, les principales métropoles se situent, elles, en zone d'alerte renforcée. Certaines des mesures annoncées ont parfois du mal à passer. C'est le cas du secteur des salles de sport à Toulouse. Elles sont dans l'obligation de fermer durant 15 jours et du coup se mobilisent. 40 d'entre elles viennent de se regrouper au sein d'un collectif. Dès ce lundi 28 septembre, un référé est déposé au tribunal administratif afin d'annuler ces fermetures. L'Office public de la langue occitane vient de rendre une enquête sociolinguistique sur l'avenir de l'occitan. Elle fait apparaître que le Lot en est l'un des départements moteurs. Selon l'organisme, il y aurait aujourd'hui sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie 542 000 locuteurs âgés de 66 ans en moyenne, soit 12% de la population. Dans son dernier rapport, la CIMAD dénonce à nouveau les conditions de rétention déplorables des personnes enfermées au centre de rétention de Cornebarieux. C'est un coup de massue pour les salariés de la TECOR. Ils ont appris vendredi qu'un tiers de l'effectif, soit 475 salariés, sont concernés par le plan social de l'équipementier aéronautique. Le détail du plan social, site par site, n'a pas été communiqué, mais Toulouse devrait être durement impactée, étant donné qu'elle concentre à elle seule la majeure partie des effectifs du groupe. Sur les fronts économiques, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Microsoft annonce son implantation à Toulouse au sein de la cité. Le groupe veut s'installer comme un catalyseur dans la transformation digitale au service des entreprises. Une école réservée aux personnes éloignées de l'emploi et dédiée à l'intelligence artificielle y ouvrira aussi ses portes d'ici la fin d'année. Et puis pas de huitième de finale et fini les rêves de cinquième étoile sur le maillot. Le stade toulousain s'est incliné 28 à 18 en demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby. C'était ce week-end contre les Anglais d'Exeter.
Merci Luc, on vous retrouve dans une demi-heure pour l'essentiel de l'actualité.
La météo.
Pour cet après-midi, de rares averses dans l'ensemble de notre région, même si ça ne va pas être fameux, vous aurez 17 degrés de moyenne. Demain matin, ciel voilé avec de très douces températures, du 8 degrés près de l'horloge mécanique à Cahors, 6 dans l'Aveyron, 9 pour le Tarn-et-Garonne, près du centre commercial de Balma, ainsi que dans le Gers et 11 pour Saint-Gaudens. L'après-midi, le temps ne change pas avec le soleil qui tente néanmoins de se frayer un chemin. Le mercure montera jusqu'à 18 degrés dans le Lot, près de Montauban ainsi qu'au Pont-Neuf à Toulouse, à Auch. Et pour nos amis de Lourdes, la plus faible température sera pour la ville de Rodez avec du 14 degrés.
Présence à Aix-les-Thermes 92.7.
Quand la technologie et la santé des seniors se rencontrent, cela donne l'ICOP Monitor. C'est le nom d'un outil, en l'occurrence une application pour prévenir la dépendance des personnes de plus de 60 ans. Elle a été développée par le Gérontopole du CHU de Toulouse en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle est actuellement expérimentée en Occitanie et l'ICOP pourrait être développée très rapidement au reste du pays. On en parle ce matin avec vous, professeur Bruno Vélas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le gériatre responsable du Gérontopole au CHU et donc à l'origine de cet outil. Avant de nous le présenter, professeur, on va peut-être recontextualiser le cadre dans lequel il s'inscrit. On parle évidemment du vieillissement, plutôt même du bien vieillir. Et alors, à ce propos, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a cette phrase que je vous donne et sur laquelle je vous fais réagir. L'OMS considère que vieillir en santé, c'est garder ses fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi ?
Donc, c'est une phrase extrêmement importante. Alors, il faut savoir qu'on a un système de santé qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour traiter les pathologies aiguës de l'adulte jeune. Mais ce système de santé n'est pas adapté au vieillissement de la population, d'où l'explosion du nombre de personnes âgées dépendantes en France actuellement. Car en effet, à côté des maladies, ce qu'il faut, c'est pouvoir garder ses fonctions. Et l'OMS a fait un grand programme ces dernières années. Ils ont revu 500 publications d'evidence-based medicine et ils ont permis de repérer 6 fonctions essentielles que sont la vue, l'audition, la mémoire, la mobilité, le bien-être psychique et les réserves nutritionnelles. Il est indispensable de garder ces fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Quelqu'un qui veut continuer à travailler après 60 ans doit pouvoir le faire. Quelqu'un qui veut continuer à aller chercher ses petits-enfants doit pouvoir le faire. Quelqu'un qui veut continuer à écouter la radio, il faut qu'il puisse continuer à le faire.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le vieillissement, ce n'est pas une fatalité ?
Le vieillissement n'est pas une fatalité. Il y a des pays en Afrique où malheureusement, à cause de la pauvreté, on considère normal de mourir à 50 ans, ce qu'on n'accepterait pas en France. Donc pendant longtemps, on a considéré, on a attribué au vieillissement des choses qui étaient fausses. Je vais vous donner un autre exemple. La maladie d'Alzheimer, pendant très longtemps, on l'appelait démence sénile, oui. Parce qu'on trouvait normal qu'après 70 ans, quelqu'un perde la mémoire. Maintenant, les gens après 70 ans ont une mémoire tout à fait correcte. Et quelqu'un qui perd la mémoire, il a une maladie. Donc souvent, on a confondu des conséquences sociales. Par exemple, dire qu'après 65 ans, on doit absolument arrêter, c'est des définitions sociales, ou alors des pathologies.
Alors vous dites que notre système de santé n'est pas adapté, hein. Il avait vocation à traiter des pathologies aiguës de l'adulte jeune, d'où une explosion de la dépendance. La dépendance aujourd'hui, en Occitanie notamment, ça représente combien de personnes, avec quels symptômes ?
Alors on peut dire qu'en France, les dépendants lourds, c'est à peu près 1,5 million de personnes. Donc l'Occitanie, ce serait à peu près 10% de la population dans les 150 000, d'autant plus qu'on est une population âgée. Alors la dépendance, il faut savoir, c'est quelque chose de grave. Qu'est-ce qui nous fait peur à tous ? C'est pas un jour de mourir vieux. Ce qui nous fait peur, c'est un jour de se trouver dépendant dans une maison de retraite, en sachant que les maisons de retraite font le maximum. Mais on a eu une étudiante en thèse qui s'est faite embaucher dans une maison de retraite pour travailler notamment sur la dépendance, et elle commence sa présentation en disant « Imaginez que vous êtes dépendant, lourd, c'est plus vous qui allez décider quand vous allez vous lever,
et oui.
Comment vous allez vous habiller, qu'est-ce que vous allez manger à midi, ni même quand vous allez passer 10 mètres dans le couloir. » Donc il faut absolument prévenir cette dépendance.
Si je résume, professeur, vieillir, c'est notre lot commun à tous. Mais par contre, on peut vieillir sans être dépendant, hein, c'est ça ?
Voilà, il faut vieillir en santé. Il y a trois catégories de seniors. Il y a les seniors robustes, c'est à peu près 60% des seniors. Il y a les seniors qui sont très fragiles ou fragiles, c'est à peu près 30%. Et les seniors qui sont dépendants, c'est dans les 9 à 10%. Donc ce qu'il faut, c'est comprimer ce chiffre, d'arriver que 5% de dépendants et avoir de plus en plus de robustes. Et on peut le faire en adaptant notre système de santé, et on a des recommandations fortes de l'OMS. Comme l'OMS nous dit pour le Covid, vous portez des masques, vous lavez les mains. L'OMS nous dit, pour prévenir la dépendance, vous surveillez et monitorez vos fonctions en développant le programme ICOP.
Alors justement, le programme ICOP, alors je ne sais pas si on dit ICOP ou ICOP, c'est vous qui allez me le dire.
Comme on veut.
On dit comme on veut. Allez, va pour ICOP. Le programme ICOP, il entend retarder ou en tout cas prévenir les manifestations du vieillissement, en tout cas contribuer à être des vieux robustes, pardonnez-moi l'expression. Qu'est-ce que c'est que cet outil ? Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Et puis peut-être aussi sa philosophie qu'on commence à comprendre.
Oui, alors tout à fait. On peut faire un parallélisme avec le Covid. Lors de la première vague du Covid, on a dit restez chez vous et quand ça ne va pas bien, vous allez à l'hôpital. Avec malheureusement une mortalité très élevée. Maintenant, ce qu'on fait, on dit testez. Et dès que quelqu'un est positif, on isole et on prend en charge tout. Pour la dépendance, c'est pareil. Pendant longtemps, on n'a pas fait grand-chose. Puis quand la personne était dépendante, il fallait qu'elle puisse aller dans une EHPAD. Alors que maintenant, ce qu'il faut faire, et ce que dit l'OMS aussi, c'est des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est pour ça qu'on en parle ici, elle dit qu'il faut tester, et dès qu'il y a une perte de fonction, agir. Et l'OMS a validé un outil qui est cet outil ICOP, qui permet en une dizaine de minutes d'évaluer les fonctions principales dont on a parlé tout à l'heure, que sont la vue, l'audition, la mémoire, le bien-être psychique, la nutrition et la mobilité. Je veux vous donner un exemple peut-être précis. Pour la mobilité, on demande à la personne, est-ce que vous êtes capable de vous lever 5 fois d'une chaise sans vous aider des bras en moins de 14 secondes? Et si quelqu'un est capable de se lever d'une chaise sans s'aider des bras en moins de 14 secondes, elle a très peu de risque de perdre la mobilité. Si par contre elle n'est pas capable, elle a plus de risque de perdre la mobilité. À nous de comprendre pourquoi elle n'est pas capable et de voir comment restaurer cette fonction.
Alors cet outil ICOP Monitor dont on parle ensemble, hein, professeur Vélas, je rappelle à ceux qui nous rejoignent que vous êtes gériatre, responsable du gérontopole au CHU de Toulouse et que vous avez développé une application qui entend prévenir les manifestations du vieillissement. Cette application, vous en parlez, elle s'appelle ICOP. Comment ça se passe? On la télécharge, chacun peut la télécharger sur son téléphone mobile, c'est ça?
Oui, alors on peut faire comme on veut. Alors, cette application, elle reprend ce test qui a été mis au point par l'OMS, qui reprend des questions qui ont été validées par les plus grands experts et qui peuvent être prédictifs d'une perte de fonction. Alors, on peut soit télécharger l'application à partir de son portable, et là, il y a deux possibilités. Soit c'est un professionnel de santé qui le fait, coach professionnel de santé, soit c'est les seniors eux-mêmes qui le font. Mmh. Et c'est important de pouvoir le faire soi-même. Et à ce moment, ils peuvent le remplir eux-mêmes ou se faire aider. On est ici dans une médecine qu'on appelle participative. Quand on est en prévention, ce n'est plus une médecine où c'est le médecin qui dit « il faut faire ça, il ne faut pas faire ça », etc. Maintenant, la médecine moderne, la médecine de demain, c'est une personne participative.
Je m'auto-évalue. M'auto-évalue.
Et je participe moi-même à ma santé et à maintenir mes fonctions.
Je m'auto-évalue tous les jours ?
Non. Alors, il faut s'évaluer.
Je ne me prends pas le coup tous les matins. Ouf.
Tous les 6 mois.
Tous les 6 mois.
Donc, et ça prend 10 minutes, un quart d'heure pour vérifier ces quelques fonctions. Et s'il y a un problème, en parler à son médecin traitant.
Le médecin traitant est compétent pour réagir. Si je viens le voir, j'ai téléchargé l'application, je m'évalue tous les 6 mois. Là, je m'aperçois que je n'arrive pas à me lever comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que je fais?
Ben le médecin traitant est là tout à fait compétent parce que si vous voulez, ces 6 fonctions de l'OMS, c'est regarder si un sujet a une perte de poids ou une perte d'appétit. Et les médecins savent très bien la conduite à tenir devant une perte de poids ou d'appétit. C'est est-ce que j'ai un trouble de la vue ou de l'audition, ce que savent très bien faire aussi les médecins traitants. Ou est-ce que je me sens déprimé? Les médecins traitants pourront alors confirmer la dépression ou non, voir comment aider la personne, etc. Donc si vous voulez, on retombe sur ses principales fonctions et là, on retombe sur des questions de médecine, mais dans lesquelles il faudra chercher des pathologies, mais aussi parfois autre chose. Et c'est l'ensemble qui permet de maintenir les fonctions.
Et alors, on va les redonner ces fonctions, hein, la mobilité, la mémoire, la nutrition, l'humeur, la vue et l'audition. Professeur Vélas, je m'aperçois que j'ai un problème au niveau de l'audition. Je vais chez le médecin qui confirme que j'ai un problème. Il se passe quoi après? Parce que si c'est juste pour m'apercevoir que oui, je suis bien en train de vieillir, ça va plutôt me saper le moral.
Non, parce que justement, le médecin traitant peut voir en fonction de ce trouble de l'audition s'il nécessite une visite avec un spécialiste, un ORL, ou s'il nécessite directement une évaluation par un audioprothésiste pour voir s'il faut mettre un appareil au bon moment. Pareil vis-à-vis de la mémoire.
On peut endiguer le processus?
Oui, on peut endiguer le processus. On peut endiguer le processus des pertes de fonction, bien évidemment, et d'autant plus qu'on le prend tôt et fonction les unes après les autres. Ce qui est difficile, on a longtemps travaillé sur la fragilité. Mais quand une personne est fragile, c'est-à-dire avant le stade de la dépendance, souvent c'est des sujets qui ont plus de 80 ans et qui ont perdu déjà 3 à 4 fonctions. Donc c'est difficile de rétablir ces 3 à 4 fonctions. C'est possible, mais c'est difficile. Par contre, si on prend un senior robuste, qu'on surveille les fonctions et qu'on rétablit les fonctions les unes après les autres, là c'est beaucoup plus facile.
Un senior robuste de quel âge du coup?
Ça peut être 60, 65, 70, 75 ans, 80 ans.
Donc ceux qui nous écoutent à partir de 60 ans peuvent se dire « Tiens, ça m'intéresse, je vais aller télécharger l'application ICOP Monitor ». Vous avez une idée de combien vous pouvez faire baisser le nombre de dépendants grâce à cet outil?
Alors, le but de l'Organisation mondiale de la santé avec ICOP, c'est de diminuer d'ici 2025 le nombre de dépendants dans le monde de 15 millions.
Ah oui.
Si on considère que la France, c'est le centième des seniors, ça veut dire de diminuer de 150 000 en France et donc en Occitanie, diminuer de 15 000. Alors, il y a l'application qu'on peut sortir, mais il y a aussi un robot vocal qui est un chatbox, oui. C'est-à-dire un site web dans lequel vous cliquez Et si on clique dans ce site web, vous avez une voix qui vous dit ce qu'il vous faut faire. Donc c'est un peu plus long, mais c'est parfois plus facile
c'est le même
pour
esprit.
Évaluer ses fonctions.
Alors depuis 5 mois, où est-ce qu'on en est, hein? Depuis 5 mois, je crois que le l'ICOP Monitor est disponible au grand public en Occitanie. La région est pilote, hein? Combien de personnes ont déjà été testées et avec quel retour d'expérience, hein?
Voilà, donc vieillir en santé, c'est garder ses fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Pendant le confinement, on a arrêté pas mal de nos fonctions.
Bien
quelqu'un
sûr.
Qui ne conduit plus risque de ne plus conduire, quelqu'un qui ne va plus faire ses courses risque de ne plus faire ses courses. Donc avec l'Agence régionale de santé, on a pris la décision de lancer ICOP Monitor dès le mois de mai après le confinement. Donc on l'a lancé dans un premier temps avec les professionnels de santé, surtout les infirmières libérales, les médecins généralistes, les soins premiers. Puis depuis à peine un mois, on a un outil maintenant d'auto-évaluation pour des seniors plus robustes qui peuvent s'évaluer eux-mêmes. Alors actuellement, on peut dire qu'on suit déjà 3000 seniors avec ICOP Monitor. La moyenne d'âge est de 74 ans et 6% simplement ont leurs 6 fonctions intactes. Donc
ça
prouve que c'est important d'agir plus tôt. Il faut savoir que ces patients, on les a recrutés surtout par les professionnels de santé. Donc c'est normal qu'il y avait
des
anomalies. Mais ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses entre 60 et 75 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il faut surveiller.
Et alors, il y a une question que peuvent se poser ceux qui nous écoutent. C'est un peu de méfiance par rapport à ce qui était les médecines et surtout aux données personnelles. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça?
Alors ces données, il faut savoir que c'est des données qui sont... pas si sensible que ça, hein. On va surveiller le poids de quelqu'un, est-ce qu'elle perd de l'appétit, sa mobilité, mais ces données sont dans une base de santé sécurisée au sein du CHU.
Comme quand vous allez... confidentialité.
Oui, et complètement confidentielle. Quand vous allez à l'hôpital, vos données sont informatisées et sécurisées. Et heureusement, parce que quand vous revenez, on peut les récupérer. Donc le but d'ICOP Monitor, c'est la même chose. Les données sont sécurisées au sein du CHU. Et puis, c'est important de les avoir mémorisés parce que ce qui est important, c'est de suivre avec le temps, comme je vous le disais, tous les 6 mois. Mmh. Parce que le vieillissement, c'est un processus qui continue. Donc, il faut qu'on puisse, à tout moment, récupérer une fonction, surtout s'il arrive une pathologie. Parce que quand arrive une pathologie, là, on est à risque de fragilité. Et il faut qu'on puisse guérir de cette pathologie tout en gardant nos fonctions. Et c'est là qu'on a une médecine qui est adaptée au vieillissement de la population et pas simplement centrée sur les pathologies.
Professeur Bruno Vélas, cette application dont on parle, hein, qui, je le répète, s'appelle ICOP Monitor, elle est testée prioritairement en Occitanie, car le gérontopole du CHU de Toulouse est centre collaborateur de l'OMS. Pour quelle raison ce lien particulier?
Donc, si vous voulez, l'Organisation mondiale de la santé s'appuie sur un certain nombre de centres spécialisés. Par exemple, sur les vaccinations, il s'appuie sur des centres qui travaillent sur les pathologies infectieuses. Et sur le vieillissement, il s'appuie sur un certain nombre de centres. Et Toulouse est le centre de référence, notamment sur la fragilité, la formation en gériatrie et la recherche.
Centre de référence, centre d'excellence, du coup ?
De l'Organisation mondiale de la santé. Oui, c'est avec eux qu'on travaille et l'OMS labellise les centres qui leur semblent avec la plus grande expertise.
Et ben voilà, on va terminer sur ce cocorico. Un grand merci, professeur Bruno Vélas, d'être venu nous présenter vos travaux à travers cet outil ICOP Monitor. Tout le monde peut le télécharger. Il suffit de taper ICOP Monitor. Vous m'avez dit qu'il y avait un numéro de téléphone. Évidemment, on pense à ceux pour qui le numérique n'est pas totalement la seconde langue. 05 61 77 70 47. 05 61 77 70 47. Je remercie Camille Faux du Gérontopole qui m'a aidé à préparer cet entretien. Un grand merci à vous.
Merci.
Dans trois minutes, Église Actualité, nous serons en communication téléphonique avec Emmanuel Pella, juste avant de la musique, avec Aurélie, la fille de Francis Cabrel, en duo avec Estène, avec le titre « 10 doigts de main ».
Dresser des murs de béton, piloter un char, un avion, tailler les fleurs des jardins, affronter la mer, fabriquer du pain, dompter des tigres et des lions, conduire un métro, un camion, soigner les gens ou les chiens, biper des codes barres, aiguiller les trains. Et toi, qui rêves encore entre mes bras, toi qui t'endors, tu te t'es dit, toi, qu'en feras-tu?
soit la musique, le temps qu'il te faudra.
Église Actualité, Emmanuel Pella.
Demain, à Rodez, le diocèse organise la conférence « Vivre aujourd'hui, notre mission de baptiser », conférence qui sera donnée par Mgr Fonlu, évêque du diocèse. À noter que cette conférence sera également donnée en visioconférence depuis Malais et Millau. Rendez-vous demain donc à 18h30 à la Maison Saint-Pierre à Rodez, mais aussi au couvent des Ursulines à Malais et salle du Barry à Millau. Demain également, à Toulouse, les Cotopaïs, ce centre spirituel jésuite du Sud-Ouest, propose un temps appelé « Relire ensemble Laudato Si », une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'année Laudato Si, déclarée par le pape François. Rendez-vous demain à 19h30, 9 rue Montplaisir à Toulouse, pour tout renseignement, un site internet www.coto-pais.net. Ce jeudi 1er octobre, à Naï, à l'occasion de la fête de Sainte-Thérèse de Lisieux, la communauté des Béatitudes propose une soirée appelée Pétales de Rose, un temps de prière et d'intercession sous le patronage de celle que l'on appelle aussi la Petite Thérèse. Rendez-vous ce jeudi à 18h à Naï, à la communauté des Béatitudes. Ce vendredi 2 octobre, à Blagnac, les Disciples de l'Agneau, groupe de jeunes de la communauté des Béatitudes également, organise un week-end jeune pour les 16-30 ans appelé « Donner du sens à ta vie ». Pour tout renseignement, un site internet www.beatitude.org. Enfin, ce vendredi 2 octobre également, à Caylus, aura lieu le premier week-end d'une formation à l'accompagnement spirituel organisée par le Centre spirituel jésuite Cotopaïs. Cette formation se déroule sur 7 week-ends et s'adresse à des personnes mandatées par l'Église, mouvements, diocèses, paroisses et autres, ayant le désir de se former à l'accompagnement spirituel. Rendez-vous ce vendredi dès 18h à Notre-Dame-de-Livron, à Caylus.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com. Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
L'essentiel de l'actualité avec notre journaliste de Lourdes, Luc Vidalgiro, en ce lundi 28 septembre.
Bonjour à tous. Elle serait presque passée inaperçue en ces temps de crise sanitaire. Les élections sénatoriales qui se tenaient ce week-end n'ont pas apporté de modifications substantielles au contour de la Chambre haute du Parlement. En Occitanie, Ariège, Aude, Aveyron, le Gers, le Tarn et Garonne étaient concernés. Pour mémoire, les personnes qui étaient appelées à voter sont les grands électeurs, à savoir des représentants des communes, les députés et sénateurs de la circonscription, les conseillers régionaux et conseillers départementaux. Le vote est obligatoire pour les grands électeurs sous peine d'une amende de 100 euros. Alors côté résultat, en Ariège, élection dès le premier tour pour le candidat socialiste Jean-Jacques Michaud. Le maire de Moulin-Neuf devient sénateur de l'Ariège avec 53% des suffrages. En Aveyron, il n'y aura pas de second tour. Les deux candidats du centre droit, Alain Marc et Jean-Claude Anglars, ont été élus dès hier. Dans le Gers, Franck Montaugé, sénateur socialiste sortant, est réélu dès le premier tour. Également sénateur sortant, le radical de gauche Raymond Val est lui battu d'une voix par le divers droite Alain Dufour. La Haute-Garonne, vous prévoyait, elle, ses 5 sièges de sénateur remis en jeu. La prime au sortant a pleinement joué. 4 des 5 titulaires ont conservé leur siège. Les LR Alain Châtillon et Brigitte Micoulot, le marcheur Pierre Medevielle, le socialiste Claude Rénal. De son côté, la socialiste Émilienne Poumirol permet à la gauche de récupérer un poste de sénateur perdu il y a 6 ans. Dans le Tarn-et-Garonne, Pierre-Antoine Lévy, ancien premier adjoint de Brigitte Barège à la mairie de Montauban, remporte son siège d'une voix sur le candidat du PRG, Jean-Paul Terraine. François Bonhomme, sénateur sortant des Républicains, a lui été légèrement réélu. C'est aujourd'hui que rentrent en vigueur de nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19. Ces restrictions peuvent être différentes d'un département à l'autre en fonction de la situation sanitaire. À ce jour, à l'exception du Lot, tous les départements d'Occitanie sont classés en zone alerte. Toulouse, Montpellier et les principales métropoles se situent en zone d'alerte renforcée. Pour s'y retrouver, le plus simple est de se reporter sur les sites internet des préfectures. En Haute-Garonne, la zone d'alerte renforcée concerne Toulouse, mais aussi 16 communes de sa périphérie jusqu'au 10 octobre inclus. Le port du masque est ainsi obligatoire dans la ville de 7h à 3h. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits sur la voie publique et sur les marchés de plein vent. Les événements familiaux, dont les mariages dans les espaces publics, sont interdits. Dès aujourd'hui, les bars doivent fermer à 22h. Les restaurants et cabarets peuvent, eux, rester ouverts jusqu'à 1h. Alors, certaines de ces mesures ont parfois du mal à passer. C'est le cas du secteur des salles de sport à Toulouse. Elles sont dans l'obligation de fermer durant 15 jours et du coup, elles se mobilisent. 40 d'entre elles viennent de se regrouper au sein d'un collectif. Dès ce lundi 28 septembre, un référé doit être déposé au tribunal administratif afin d'annuler ces fermetures. En Nouvelle-Aquitaine, le président de région Alain Rousset présentera le 5 octobre un plan de transition et de reconquête technologique pour faire face à la crise. Il s'agit d'apporter une réponse sur le long terme à l'impact de la crise économique et sociale qui s'annonce, même si, explique Alain Rousset, elle sera un peu moins forte en Nouvelle-Aquitaine que dans d'autres régions grâce à une diversification du tissu industriel. Il n'en reste pas moins que des filières comme l'aéronautique, bien présentes, seront tout de même très touchées. L'Office public de la langue occitane vient de rendre une enquête sociolinguistique sur l'avenir de l'Occitan. Elle fait apparaître que le Lot en est l'un des départements moteurs. Selon l'organisme, il y aurait actuellement sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie 542 000 locuteurs âgés de 66 ans en moyenne, soit 12% de la population. Dans le même temps, 85% des sondés disent leur fort attachement à cette langue et sont favorables à son développement dans les médias. Le Lot est le département où la langue est la mieux comprise par 23% de la population. C'est 8 points de plus qu'en Occitanie. Il y aurait 31% des moins de 18 ans qui ont suivi ou suivent des cours d'occitan. Dans son dernier rapport, la CIMAD dénonce à nouveau les conditions de rétention déplorables des personnes enfermées au centre de rétention de Cornebarieux. Le centre dispose de 126 places. Pour l'association active dans le soutien aux migrants, réfugiés et déplacés, demandeurs d'asile et étrangers en situation irrégulière et autres candidats à l'exil, tous les voyants sont de nouveau au rouge. Sur plus de 1320 personnes enfermées au centre de rétention de Toulouse durant des périodes plus ou moins longues, la CIMAD compte 27 familles avec 57 enfants âgés de seulement 3 semaines à 16 ans. La CIMAD estime que les deux lois adoptées en 2018 ont permis d'étendre le champ des personnes pouvant être enfermées et allongent la durée légale de rétention à 90 jours. Le rapport détaille le profil des personnes en rétention. À Cornebarieux, ce sont 86,4% des hommes, 9,8% des femmes et 3,8% des enfants accompagnant leurs parents. Ils sont pour presque un quart de nationalité algérienne. Les pays les plus représentés sont par ailleurs le Maroc, l'Albanie, la Tunisie et la Géorgie. C'est un coup de massue pour les salariés de l'ATECOER. Ils ont appris vendredi qu'un tiers de l'effectif, soit 475 salariés, sont concernés par le plan social de l'équipementier aéronautique. Pionnier du secteur, l'ATECOER s'est imposé au fil des décennies parmi les plus importants sous-traitants du secteur en produisant en série pour Airbus et Boeing, notamment des portes d'avions et des câblages de trains d'atterrissage. La branche aérostructure prévoit à elle seule 345 suppressions de postes sur un total de 827 salariés, soit 41% des effectifs. Le détail du plan social, site par site, n'a pas été communiqué, mais Toulouse devrait être durement impactée, étant donné qu'elle concentre la majeure partie des effectifs du groupe. Sur le front économique, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Microsoft annonce son implantation à Toulouse, au sein de la cité. Le groupe vient s'installer comme un catalyseur dans la transformation digitale au service des entreprises. Une école réservée aux personnes éloignées de l'emploi et dédiée à l'intelligence artificielle doit ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année. En France, ce n'est pas la première structure de ce genre. Les villes de Nantes et Bordeaux bénéficient déjà d'une implantation identique. On fête cette année un anniversaire en Occitanie, celui des 50 ans du Parc national des Cévennes. Aujourd'hui, sur les 120 communes où s'étend le parc, 111 ont adhéré à la charte qui régit les règles du territoire. Le parc est géré par un établissement public sous tutelle du ministère de l'Environnement. Avec 93 500 hectares, il est le parc national le plus vaste en France métropolitaine. On y dénombre 2 410 espèces animales différentes et plus de 11 000 en matière de flore. À noter qu'en 1985, le parc national des Cévennes est reconnu par l'UNESCO réserve de biosphère pour son équilibre entre l'homme et la nature. Et puis en 2011, l'UNESCO inscrit les paysages culturels agro-pastoraux des Causses et des Cévennes sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Pas de huitième de finale et fini les rêves de cinquième étoile sur le maillot. Le stade de Toulousain s'est incliné 28 à 18 ce week-end en demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby. C'était contre les Anglais d'Exeter. Et puis en tennis, le tournoi des Petits As de Tarbes, dont la 39e édition était prévue du 21 au 31 janvier prochain, a été reporté au mois de septembre 2021.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour le rappel des titres.
La météo.
Pour cet après-midi, de rares averses dans l'ensemble de notre région, même si ça ne va pas être fameux, vous aurez 17 degrés de moyenne. Demain matin, ciel voilé avec de très douces températures, du 8 degrés près de l'horloge mécanique à Cahors, 6 dans l'Aveyron, 9 pour le Tarn-et-Garonne, près du centre commercial de Balma, ainsi que dans le Gers et 11 pour Saint-Gaudens. L'après-midi, le temps ne change pas avec le soleil qui tente néanmoins de se frayer un chemin. Le mercure montera jusqu'à 18 degrés dans le Lot, près de Montauban, ainsi qu'au Pont-Neuf à Toulouse, à Auch. Et pour nos amis de Lourdes, la plus faible température sera pour la ville de Rodez avec du 14 degrés. La crise sanitaire touche tout le monde et même Gaëtan Casanova, qui est notre chroniqueur pour la santé. Comment a-t-il agi dans moins de 4 minutes? Il vous dit tout. En attendant, la belle voix de Pascal Obispo pour vous faire patienter avec millésime dans notre partie d'Occitanie. Je vous souhaite un bon appétit.
Sur les coteaux en pente, les vallons amoureux, un rayon de soleil et passé sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe. Et je vois mon château sortir du cœur des vignes. Tu es mon millésime, ma plus belle année pour ce bonheur. Je suis à jamais ta terre, c'est ça, être père. Après autant d'amour, la saison des vendanges, on récolte le fruit, le meilleur des mélanges. La bouche est ronde et pleine, et le nez si discret. Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner? Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça, être père. Je ne sais pas de quoi notre histoire sera faite, mais je me sens porté. Un jour est une fête, quelques notes légères, des regards qui caressent, où je gagne en amour comme on gagne en noblesse. C'est ça, être père. C'est ça. c'est ça. Être père.
La chronique santé avec Gaëtan Casanova.
J'ai attrapé le Covid. Après y avoir échappé des mois durant en réanimation, voilà qu'il y a quelques jours, je commence à avoir de la fièvre, une toux sèche et des douleurs un peu partout. Si cette partie n'est pas très intéressante, ce qu'il est en revanche beaucoup plus, c'est que c'était pour moi l'occasion de rentrer directement dans le parcours comme patient. Et c'est là qu'ont commencé les problèmes. Mon premier réflexe, légitime, est d'essayer de prendre un rendez-vous, étant symptomatique, pour pouvoir être testé et me positionner vis-à-vis de mon hôpital. Après quelques recherches, j'arrive à trouver un rendez-vous pour la mi-octobre. Autant vous dire que d'ici là, je risque fort d'être guéri. L'autre possibilité, évidemment, est de me rendre à un laboratoire d'analyse médicale et de faire la queue pendant plusieurs heures. Le problème avec cette dernière possibilité, c'est que lorsqu'on est fébrile et symptomatique, on risque fort de contaminer les personnes dans la file pour celles qui n'étaient pas positives. J'arrive cependant à avoir un rendez-vous le jour même à la médecine du travail de mon hôpital. Problème, pour m'y rendre, c'est 2 heures de trajet aller-retour et autant de temps passé dans une rame de RER bondée où je risque de contaminer les passagers. Là-bas, je réalise une PCR et 2 possibilités s'ouvrent à moi. Soit la PCR est positive et je suis arrêté pendant 7 jours, soit elle est négative, dans environ un tiers des cas quand même, et alors je reste également peu ou prou 7 jours évincé de l'hôpital. Enfin, si elle est négative, je devrais me rendre à nouveau à la médecine du travail et réaliser une nouvelle PCR. Là aussi, c'est la garantie d'un collet serré d'environ 2 heures dans une rame de RER bondée et autant de possibilités de contamination. Total des courses, environ 140 euros de facture pour la sécurité sociale et une stratégie thérapeutique qui ne changera quasiment pas. Ce que je vous disais la semaine dernière se vérifie donc. Pas de cap et une stratégie de lutte contre l'épidémie que plus personne ne comprend, médecin compris. Au-delà de son coût, ce papillonnage sanitaire jette un grand discrédit sur les mesures de lutte contre le coronavirus. Il fait grandir un sentiment de défiance de plus en plus important envers les autorités sanitaires. Le risque, il est évident, c'est qu'à la fin, plus personne ne respecte les mesures gouvernementales. Maintenant, tout le monde y va de son mot, y compris dernièrement 2 prix Nobel d'économie qui demandent un reconfinement pour Noël. Tout le monde est devenu expert puisqu'il devient presque impossible de faire confiance aux experts. Ce discrédit n'est pas uniquement politique, il est aussi médical. Il est urgent d'adopter une vraie politique lisible et claire pour tous nos concitoyens devant une épidémie dont plus que jamais le mot de la fin semble loin d'être écrit.
Dans une poignée de minutes, votre évangile. Et si vous voulez écouter ou réécouter vos émissions préférées, n'hésitez pas à aller sur le www.radioprésence.com et retrouver vos chroniques, vos animateurs aussi, vos producteurs. Tout se passe sur ce site. En attendant l'évangile, Michel Berger vous chante Le Paradis Blanc, un très beau morceau qui est sorti en 1990. Bonne fin d'appétit dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Il est 12h39, tout pile à l'horloge de Présence.
Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis bleu.
loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider le faux du vrai et qui aimer ou condamner. Le jour où j'aurais tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans à jouer avec le vent.
Présence aux portes du Tarn, 97.9. L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur esprit, prit un enfant, le plaça à côté de lui, et il leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille, moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous, c'est celui-là qui est grand. Jean, l'un des 12, dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous les avons empêchés, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit, « Ne l'en empêchez pas. Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs dans le Christ, la première lecture nous présente un homme juste et heureux qui servait Dieu dans l'amour. Son Seigneur était fier de lui. Mais l'adversaire va demander à le mettre à l'épreuve. Il va s'en dire que le mal n'est pas toujours une punition. Ici, il sert à vérifier la qualité de la foi de Job, qui, dans sa situation dégradante, ne maudira pas Dieu. Il fera preuve d'une grande foi. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. À la suite de Job, puissions-nous bénir Dieu en toute situation. Bien-aimé de Dieu, le cœur de l'homme est la source, le lieu des plusieurs grands désirs, de plus beaux projets et des plus nobles sentiments. Mais il est aussi le lieu où la pensée, les pensées les plus contraires à l'Évangile peuvent se faire jour. Dans l'Évangile de ce jour, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Frères et sœurs, de nos jours, qui n'a jamais rêvé être le meilleur dans son domaine? Nous sommes ainsi faits. Nous avons la folie des grandeurs. Et ce n'est pas un mal en soi. Voilà pourquoi Jésus ne cherche pas à contrer ce désir de ses disciples, mais plutôt à le réorienter. Car lui aussi voit grand, très grand même pour nous, et il veut nous amener au-delà de notre idée rétrécie de la grandeur. Il ne veut rien de moins que nous faire partager sa divinité. Seulement, il nous faut changer de paradigme. Car pour être grand aux yeux de Dieu, il faut être petit. Nous sommes invités à nous rappeler que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tout vient de lui, tout est pour lui. Le psalmiste nous le rappelle. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Oui, être le plus grand, c'est faire à la suite de Jésus la volonté du Père. C'est se comporter avec Dieu comme un enfant. Être fils ou fille et se vouloir en totale dépendance à l'égard de Dieu. C'est emprunter le chemin de l'amour divin et de l'humilité. Jésus lui-même est l'incarnation de cette grandeur à laquelle il nous convie. Lui, qui est de condition divine, s'est abaissé en prenant chair de notre chair, a souffert la passion, est mort sur une croix par amour pour nous et par obéissance à son Père pour notre salut. Le plus grand est donc celui-là qui s'évertue à entrer dans cette dynamique de l'amour de Dieu et du prochain. Il atteindra par la grâce divine sa statue parfaite, sa filiation de fils ou fille de Dieu. Frères et sœurs, Marie est l'éducatrice de notre foi. Elle est le modèle de l'obéissance à la parole de Dieu. Demandons par son intercession à Jésus, son Fils, la grâce de l'humilité de Dieu qui nous fera vivre en serviteurs et servantes de Dieu à travers le prochain. C'est cela qui nous fera le plus grand dans le royaume. Que cette Eucharistie nous en donne la grâce. Amen.
Présence à Montrégeau. 94.1.
Pour cette fin d'heure, le rappel des titres de notre région avec notre journaliste de Lourdes, c'est dans 3 minutes et à 13h, votre journal international de Radio Vatican. Juste avant, je vous emmène en Espagne. Pas de soucis de frontières, non. La belle voix de Sanchez Amparo nous fait voyager en restant à Figeac, Lourdes, Saint-Gaudens ou encore Toulouse et Cahors. Vous êtes sur Présence, très heureux de vous accompagner en tout cas.
Sueño que te estás comiendo. Una mojarrita que está muy salada. Sientes que viene la conga y sueltas el plato pa' irte a arrollar pa' allá.
A la parranda, tú viniste conmigo a la parranda. Y cuando viste la pachanga, te la cogiste toda para ti. Anoche, a la parranda, tú viniste conmigo a la parranda. Y cuando viste la pachanga, te la cogiste toda para ti.
Sueño que el río te lleva con Ochunla Bella y con Yemaya. Suenan tus collares, las santas ya vienen. Osoco se viene atribulado para ti. Mi gallo de espuela, mi papel de estraza, mi canto mambí para ti. Ya barrí el palenque, enterré la chamba y ofrecí el violín.
Y es que tú eres a tu manera.
Y es que tú eres a tu manera. Y es que tú eres a tu manera. Y es que tú eres a tu manera.
somos atribulados, somos atribulados. Hey. Somos atribulados, somos atribulados. Somos atribulados, somos atribulados. Somos atribulados, somos atribulados. Yo batalla, ta wini wini. Somos atribulados, somos atribulados. Yo batalla, ta wini wini. Somos atribulados, somos atribulados. Oh, you get it, get it, get it.
Radio Présence à Toulouse 97.9.
Le rappel des titres avec Luc Vidal-Giraud dans notre partie d'Occitanie.
Les élections sénatoriales qui se tenaient ce week-end n'ont pas apporté de modifications substantielles au contour de la Chambre haute du Parlement. En Occitanie, en Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Gers, le Tarn et le Tarn-et-Garonne étaient concernés. C'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur de nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19. Ces restrictions peuvent être différentes d'un département à l'autre en fonction de la situation sanitaire. À ce jour, à l'exception du Lot, tous les départements d'Occitanie sont classés en zone alerte. Toulouse, Montpellier et les principales métropoles se situent, elles, en zone d'alerte renforcée. Certaines des mesures annoncées ont parfois du mal à passer. C'est le cas du secteur des salles de sport à Toulouse. Elles sont dans l'obligation de fermer durant 15 jours et du coup se mobilisent. 40 d'entre elles viennent de se regrouper au sein d'un collectif. Dès ce lundi 28 septembre, un référé est déposé au tribunal administratif afin d'annuler ces fermetures. L'Office public de la langue occitane vient de rendre une enquête sociolinguistique sur l'avenir de l'occitan. Elle fait apparaître que le Lot en est l'un des départements moteurs. Selon l'organisme, il y aurait aujourd'hui sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie 542 000 locuteurs âgés de 66 ans en moyenne, soit 12% de la population. Dans son dernier rapport, la CIMAD dénonce à nouveau les conditions de rétention déplorables des personnes enfermées au centre de rétention de Cornebarieux. C'est un coup de massue pour les salariés de la TECOR. Ils ont appris vendredi qu'un tiers de l'effectif, soit 475 salariés, sont concernés par le plan social de l'équipementier aéronautique. Le détail du plan social, site par site, n'a pas été communiqué, mais Toulouse devrait être durement impactée, étant donné qu'elle concentre à elle seule la majeure partie des effectifs du groupe. Sur les fronts économiques, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Microsoft annonce son implantation à Toulouse au sein de la cité. Le groupe veut s'installer comme un catalyseur dans la transformation digitale au service des entreprises. Une école réservée aux personnes éloignées de l'emploi et dédiée à l'intelligence artificielle y ouvrira aussi ses portes d'ici la fin de l'année. Et puis pas de huitième de finale et fini les rêves de cinquième étoile sur le maillot. Le stade toulousain s'est incliné 28 à 18 en demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby. C'était ce week-end contre les Anglais d'Exeter.
Pour cette fin d'heure, nous allons survoler la météo. L'après-midi, de rares averses, 17 degrés de moyenne. Demain matin, un ciel voilé avec 8 degrés près de Cahors, 6 dans l'Aveyron, 9 pour le Tarn-et-Garonne, près du centre commercial de Balma, ainsi que dans le Gers et 11 pour Saint-Gaudens. L'après-midi, le temps ne change pas avec le soleil qui tente de se frayer un chemin jusqu'à 18 degrés dans le Lot, près de Montauban, ainsi qu'au Pont-Neuf à Toulouse, à Auch. Et pour nos amis de Lourdes, la plus faible température sera pour la ville de Rodez avec du 14 degrés. Je vous souhaite une très belle après-midi. Pour la suite de vos programmes, Radio Vatican arrive.
Radio Présence à Foi 100.2.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
L'Inde a dépassé ce matin la barre des 6 millions de cas de contamination au coronavirus. Le pays enregistre